Voilà, j'aimerais parler ce matin sur Abraham, l'ami de Dieu, dans Genèse chapitre 18, et nous lisons au verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, trois mesures de fleurs de farine pétries et fais un gâteau. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur. Il se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème, du lait avec le veau qu'on avait apprêté et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là, dans la tente. L'un d'eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux et avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, Est-ce que maintenant j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant, Je n'ai pas ri, car elle eut peur, mais il lui dit, Au contraire, tu as ri. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent, du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, Cacherai-je ce que je vais faire? Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. Et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il a faites. Et l'Éternel dit, Le cri contre Sodome et Gomorre est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Amen. On passe parfois par des moments de désert où nous avons l'impression que nous n'entendons plus la voix de Dieu ou que Dieu nous aurait oubliés ou abandonnés. Et c'est parfois les moments dans lesquels Abraham a pu passer pendant ses 25 années, puisque maintenant, nous arrivons à 25 années de voyage, de déplacement depuis qu'il a quitté Ur en Chaldée. Il a bientôt 100 ans, il est parti à l'âge de 75 ans. Et il y a eu des temps difficiles, il y a eu des temps de désert, il y a eu des temps d'abondance. Et puis, c'est un petit peu notre vie. Et dans ce passage, nous voyons que Abraham est véritablement l'ami de Dieu. Et Dieu s'intéresse à l'aspect relationnel. Et on voit que même dans les temps de désert, les moments difficiles ou les temps d'attente, comme ça a été le cas d'Abraham, eh bien, il y a la communion avec Dieu qui nous maintient dans les voies du Seigneur. Je relève ce passage du Nouveau Testament. Dans l'Épître de Jacques, il est dit, Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice, et il fut appelé l'ami de Dieu. Voilà pourquoi j'ai donné ce titre à ce message, Abraham, l'ami de Dieu. Et ça, c'est assez extraordinaire de voir dans la parole que des personnes ont été appelées l'ami de Dieu. Ça exprime une profonde communion entre Abraham et son Dieu. C'est-à-dire qu'ils avaient une connaissance mutuelle, qu'ils avaient des temps, qu'ils avaient des partages, qu'ils avaient une communion, cette communion que nous devons nous aussi établir, développer avec Dieu. J'ai noté deux versets qui nous donnent une indication de cet amour qu'il y avait entre Dieu et Abraham et entre Abraham et Dieu. D'abord, dans 2 Chroniques 27, il est dit « N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui a chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui les a donnés et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait ?» Et là, c'est mentionné qu'Abraham avait développé cet amour pour Dieu. Abraham aimait Dieu, Abraham avait ce désir de lui plaire, ce désir d'être en contact, en connexion avec Dieu, et cela plaisait à Dieu. Et dans l'autre sens, il y a un deuxième verset qui fait le parallèle avec celui-ci, c'est dans Ésaïe 41:8. « Mais toi, Israël, mon serviteur Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, c'est Dieu qui parle, race d'Abraham, Abraham que j'ai aimé. » Et là, on voit que Dieu a aimé aussi Abraham. Vous voyez dans les deux sens, c'est mentionné dans l'Écriture que Abraham aimait Dieu et que Dieu aimait Abraham. Et c'est ça la communion avec Dieu, c'est une relation d'amour, l'amitié de Dieu. Abraham a été appelé l'ami de Dieu parce qu'il y avait cette relation d'amour. Maintenant, cette communion, nous savons que nous devons l'avoir et la développer, mais que se passe-t-il quand nous perdons la communion, quand nous perdons l'amour, quand l'amour diminue, puisque là on voit que Abraham aimait Dieu, mais si notre amour pour Dieu diminue, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de fait, la communion va diminuer avec l'amour. On va perdre la paix, on va perdre la joie, on va perdre l'amour pour le prochain, on va perdre tous les ingrédients en fait, que Dieu a placés en nous le jour où nous lui avons donné notre vie. Peut-être ça va être la lassitude, ça va être la dureté qui va prendre la place au lieu de la douceur, ça va être l'amertume au lieu du pardon, ça va être toutes sortes de sujets, de difficultés qui vont monter en surface. Et puis finalement, la situation, c'est d'être un chrétien tiède, comme dit Jésus dans une lettre de l'Apocalypse. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu n'es ni chaud, ni froid, mais tu es tiède. Tu es tiède, c'est-à-dire tu as perdu ta communion avec Dieu, tu n'es plus dans le même amour, ton amour a diminué. Alors Abraham nous montre la voie de l'amour pour Dieu qui s'entretient dans la durée, 25 ans de marche avec Dieu, 25 ans, il a passé par des hauts, par des bas. Mais en tout cas, c'est mentionné qu'il aimait Dieu, que Dieu l'aimait et que dans toute cette durée, il n'a pas lâché la main du Seigneur. Le premier point, c'est la visite des trois hommes qui vont rencontrer Abraham. Abraham ne le sait pas encore, mais ces trois hommes ne sont pas des hommes ordinaires. Il y a deux anges parmi eux et on pense que le troisième, selon les commentateurs, serait le deuxième membre de la Trinité, c'est-à-dire Jésus personnifié ou l'ange de l'Éternel qui vient souvent dans l'Ancien Testament à la rencontre de son peuple. Alors ces trois hommes viennent à sa rencontre alors que Abraham demeure sous les chaînes de Mamré, Mamré qui signifie vigueur, prospérité. Et c'est là, frères et sœurs, que nous devons demeurer, nous chrétiens, dans la vigueur et la prospérité que nous procure l'Éternel. Ésaïe 49 nous dit, il donne, c'est Dieu qui le fait, Ésaïe 40, verset 29, il donne de la force à celui qui est fatigué. Peut-être quelqu'un est venu fatigué, mais la force, elle nous vient de l'Éternel ce matin. Il augmente la vigueur de ceux qui tombent en défaillance. Mamré, vigueur, prospérité. Est-ce que nous demeurons sous les chaînes de Mamré? Sous les ailes du Très-Haut, comme dit le psalmiste, c'est là qu'est la vigueur, c'est là qu'est la force. Les adolescents se fatiguent et se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol, comme les aigles. Ah, le verset 31, il me fait penser à l'église de Toulouse-Ouest. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Voilà, béni soit Dieu. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Ça, c'est la grâce de Dieu. Que Dieu nous renouvelle pendant la marche. Vous voyez, c'est dans le service, c'est dans l'activité, dans la marche que Dieu va renouveler nos forces. On est un petit peu comme des aigles et on va pouvoir survoler les difficultés, courir sans se lasser. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous voyez, à un moment donné, Élie était passé par un moment de profond découragement. Le Seigneur l'a relevé. La Bible dit qu'il a pu marcher 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu. C'est tout à fait impossible de faire une chose pareille, sauf si l'Éternel renouvelle nos forces pendant la marche. 40 jours, 40 nuits, on va dire c'est surnaturel. Je prends l'exemple de Moïse. Il est dit dans la parole que Moïse était âgé de 120 ans. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont 120 ans ce matin. Bon, ben, il est mort quand même. Lorsqu'il est mort, sa vue n'était point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Alléluia! Il habitait sous les chaînes de Mamré. Vigueur, prospérité, sa vigueur n'était point passée. Alors moi, je souhaite, si j'arrive jusqu'à l'âge de 120 ans, ben, être gardé comme Abraham, que la vigueur ne soit pas passée et que ma vue ne soit pas affaiblie, parce que pour l'instant, il me faut quand même des lunettes. Mais c'est l'Éternel qui nous donne la force, c'est l'Éternel qui nous donne la santé. Vous voyez, il y a quelques siècles, au XVIIIe siècle, l'espérance de vie n'était que de 25 ans. Il y avait une immense mortalité. Aujourd'hui, elle est environ 80 ans. Et selon les scientifiques, qui pensent déjà au siècle futur, ils estiment que l'espérance de vie va augmenter encore jusqu'à 120 ou 150 ans. 200, la sœur. Qui dit mieux? Vous voyez, ça c'est la vision des scientifiques. Alors, ça fait quelques frayeurs à nos hommes politiques qui ont déjà des soucis pour la retraite. Et imaginez qu'on vive jusqu'à 150 ans. Eh bien, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour tous les salariés. Voilà, ça c'est les scientifiques qui sont dans les projections. Mais nous, nous nous confions à l'Éternel et si Dieu nous prête vie jusqu'à 120 ans comme Moïse, eh bien prions pour qu'il nous garde dans sa main, dans sa force, un peu comme Abraham, la vigueur, la prospérité. Je pense aussi à Caleb, il avait 80 ans et il était encore partant pour aller au combat. Il était encore partant pour aller s'emparer de la montagne, d'une montagne qui n'était pas encore conquise. Et il a proposé à Josué, « Moi, j'ai encore autant de vigueur que j'en avais quand j'avais 40 ans. » Donc, il avait conservé cette force, cette vigueur. Et il était prêt à 80 ans, 85 ans exactement, à relever encore des défis pour l'Éternel. Dieu va donc apparaître à Abraham sous les chaînes de Mamré. C'est important que nous demeurions dans la présence de Dieu, dans ce lieu de vigueur, de prospérité que nous donne l'Éternel. C'est là que Abraham demeurait. Le deuxième point, c'est la communion avec Dieu. On comprend que ces trois hommes ne sont pas des êtres humains ordinaires. C'est une théophanie, c'est-à-dire une manifestation de Dieu sous forme visible. Ces trois hommes, donc, sont deux anges, et très probablement le troisième, l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire une préfiguration de Jésus-Christ. Et on va voir que quand ces trois hommes parlent, la Bible dit que c'est l'Éternel qui parle. C'est pour ça que ce n'est pas des hommes ordinaires, mais que c'est une théophanie. La communion, on la trouve lorsque Abraham vite apprête un repas pour manger avec ses hommes. Il va faire un repas et autour du repas va s'établir une communion. Et si vous vous rappelez, c'est le soir de la Pâque que Jésus a organisé un repas, le dernier repas, avant qu'il monte au ciel, et il a institué la Sainte Cène. Et il y a un passage dans Jean 15, au verset 14, et c'est là où Jésus va déclarer « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Jésus voulait développer donc une communion d'amitié avec ses disciples. « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » Donc, on voit ici une communion qui s'établit autour de ce dernier repas. La Sainte Cène va être prise là. En fait, ce qu'on appelle la Sainte Cène, la Sainte Cène, c'était un repas. C'était au cours d'un repas, le repas de la Pâque, que Jésus, à un moment donné, a pris du pain et du vin et il a expliqué ce que signifiait symboliquement le pain et le vin en vue de son sacrifice. C'est dans le cours de ce repas. Mais en même temps, Jésus, dans l'évangile de Jean, a apporté tout un enseignement sur l'humilité, sur l'amour et notamment sur la communion ici, Jean 15, où il dit « Vous n'êtes plus des serviteurs, je vous ai appelés amis ». Et rappelez-vous, Abraham, il fut appelé l'ami de Dieu. Et on retrouve ça aussi pour les disciples. Dieu ne veut plus nous appeler serviteurs, mais il veut nous appeler ses amis, c'est-à-dire une relation de communion. Parce qu'il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Il faut bien se rappeler cette histoire du fils prodigue. Lorsque le fils est parti, qu'il a tout lâché, qu'il est parti dépenser tous les biens de son père dans la débauche, il a été repris dans sa conscience, il est revenu à Dieu, et le père a apprêté un veau gras qu'il a offert en l'honneur de son retour. Ils ont fait une fête, en fait, pour célébrer le retour du fils prodigue. Et la Bible dit que pendant ce temps, le fils aîné, lui, il était au champ, et il entend dans la maison des bruits de fête, et il se dit, mais comment ça se fait qu'il y a une fête? Il s'approche, il entend que son frère est revenu. Et lui, il servait dans un état d'esprit de serviteur, mais sous les lois, dans la rigidité. Il n'avait pas vraiment d'amour pour son maître. Il n'y avait pas de communion avec son père. Alors, il va être jaloux, il va exprimer, mais il dit au père, mais ton fils, là, qui est parti manger l'argent avec les prostituées, alors que c'est son frère, il le méprise, il le dénigre. Il dit, pour moi, tu n'as pas offert le veau gras, et pour lui, tu l'as fait. Et il est dans l'amertume, il est dans la jalousie. C'est le type du serviteur qui vit sous des lois ou qui s'impose des règles que Dieu ne lui a jamais données. Parce que Dieu lui dit, mais toi, tu étais dans la maison, toi, tu pouvais faire tout ce que tu voulais, tout ce qui est à moi est à toi, et il n'en a jamais profité. Il était dans une optique d'un service craintif, d'un service sous le joug, dans la souffrance, et il n'a pas vraiment servi comme un ami. Alors, Dieu ne peut pas l'appeler son ami, celui-là. C'est vrai, c'est un serviteur, mais il s'est placé lui-même sous un joug, sous des lois. Alors, cette parabole nous montre qu'il nous faut accepter la grâce de Dieu et il nous faut rentrer dans la communion avec Dieu et dans cette liberté d'amour que Dieu nous donne et être appelé ami de Dieu, c'est ce que Jésus désire. Comme des amis, on peut servir aussi comme des amis, c'est ce que Jésus nous demande. Je ne vous ai plus appelé serviteur, mais ami, c'est-à-dire on réalise les privilèges que Dieu nous a faits, qu'on a des révélations spéciales, qu'on a des grâces spéciales et on peut développer l'amour. Un autre point dans notre texte, c'est la toute science de Dieu. Lorsque les trois hommes vont parler de Sarah, alors que c'est la première fois qu'ils viennent et qu'ils ne connaissent pas Sarah, ils ne savent pas qui est Sarah, mais ils savent en fait qu'Abraham est marié avec Sarah et ils vont lui dire « Mais où est ta femme Sarah ?» Et ça nous parle que ce n'est pas des hommes ordinaires, mais ce sont des envoyés de Dieu qui connaissent toutes choses. Et ils lui disent « Voilà, où est ta femme Sarah? Elle est dans la tente. » Eh bien, ils lui disent, dans un an, ta femme aura un enfant. Alors, on voit que maintenant, la promesse qui avait été donnée il y a déjà 25 ans, qui a été réitérée à plusieurs reprises, maintenant, on arrive dans une fourchette de temps qui, pour Abraham, est plus calculable ou raisonnable. Il sait que maintenant, un an, c'est pas énorme, un an, c'est pas très long. Par rapport à tout ce qu'il a vécu, ça faisait 24 ans à partir de là qu'il avait eu la promesse. Donc on va dire que maintenant le plan est en train de s'achever. Sauf qu'il a 99 ans et que maintenant c'est presque impensable. Sarah en a 89. Avoir un enfant dans un an. Lorsque Sarah entend la conversation, la Bible dit qu'elle rit dans son cœur. Personne ne la voit aller dans la tente, elle rit dans son cœur en disant « c'est pas possible ». Et immédiatement, les hommes savent qu'elle est en train de rire dans son cœur. Vous voyez, ce n'est pas des hommes ordinaires, c'est l'Éternel qui se manifeste. Au psaume 139, il est dit « Éternel, tu me sondes et tu me connais ». Parce que l'Éternel sait tout de nous. « Tu sais quand je m'assieds, quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche, quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies ». On ne peut rien cacher à Dieu. Et lorsqu'elle va essayer de dire « mais je n'ai pas ri ». Parce qu'elle pensait que c'était des hommes ordinaires. Eh bien, les hommes lui ont dit « si, tu as ri ». Elle a menti, mais on ne peut pas mentir à Dieu. On ne peut pas mentir au Saint-Esprit. Il y a un couple qui a essayé de mentir au Saint-Esprit dans la Bible, c'est Ananias et Saphira. Ils ont essayé de tromper sur le prix d'une vente, alors qu'ils étaient libres de donner ce qu'ils voulaient, mais ils ont voulu faire croire qu'ils avaient donné une telle somme, ce n'était pas vrai. Eh bien, ils ont menti, pas simplement au Saint-Esprit, ils ont menti à Dieu. Et ce n'est pas des hommes, il dit, ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu que tu as menti. Et Dieu a vu, et Dieu n'a pas approuvé, et Dieu a jugé ce couple qui a été terrassé, et ils sont morts. Donc, elle va essayer de mentir, et remarquez que le mensonge, c'est quelque chose de pénible, qui tenaille Sarah, parce qu'elle est prise sur le vif. Mais c'est aussi un problème d'Abraham, si vous regardez bien l'histoire, parce que à deux reprises, il ment Abraham. À deux reprises, il va faire croire que Sarah, c'est sa sœur et non pas sa femme. Et on voit que ça a une influence quand même, l'un sur l'autre, ce mensonge. Quand on n'a pas réglé un péché, il va toujours ressortir d'une manière ou d'une autre dans notre vie, soit dans notre famille, soit dans nous-mêmes. Et c'est quelque chose qu'Abraham devra régler et que Sarah aussi devra régler, parce qu'on ne peut pas laisser les choses ainsi pour garder la communion avec Dieu. Alors, au quatrième point, c'est le verset 11, on voit qu'il y a une réalité visible qui est incontournable. Abraham et Sarah étaient vieux, c'est écrit comme ça, ils étaient vieux, avancés en âge, c'était la réalité physique visible. Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Voilà, c'est comme ça, on ne pourra pas. On ne pourra pas, alors que les trois hommes viennent d'annoncer dans un an, Sarah aura un enfant. Eh bien, la réalité revient devant les yeux d'Abraham et de Sarah pour leur dire « c'est impossible, vous êtes vieux, vous ne pourrez jamais avoir d'enfant ». Et c'est toujours la même chose pour nous, c'est quand on reçoit des promesses de Dieu, il y a toujours la réalité physique qui nous dit « c'est pas possible, ça ne fonctionnera pas, vous n'y arriverez jamais ». Alors, c'est là où il nous faut trouver la bonne attitude. La première attitude, ça consisterait à laisser notre esprit se nourrir de la réalité physique qui nous dit « je suis vieux, Sarah est vieille, je suis avancée en âge, elle ne pourra jamais avoir d'enfant. » Et je me nourris l'esprit de cette pensée. Je n'y arriverai pas, ce n'est pas possible, je n'ai pas les moyens, ça ne fonctionnera pas. Et je ne dégage pas, je ne libère pas mon esprit de cette pensée. Mais si Abraham et Sarah se nourrissent l'esprit de cela, eh bien c'est certain qu'ils vont finir par vivre ce qu'ils ont nourri leur esprit. Mais s'ils se nourrissent des promesses de Dieu et s'ils croient que l'Éternel peut vraiment le faire et que plutôt que de dire ça, ils disent « oui, le Seigneur est tout-puissant, il est fidèle et il va faire un miracle », alors ça prépare leur cœur à vivre le miracle. Donc ça, c'est une attitude. Si notre attitude est négative, eh bien nous allons vivre les choses que nous pensons dans notre esprit. Si nous sommes défaitistes, si nous disons « la main de l'Éternel ne pourra pas le faire », eh bien effectivement, nous ne verrons pas les miracles. Donc déjà, pour voir les miracles, il nous faut nous attendre à la main de Dieu et dire « oui Seigneur, il peut le faire, on n'a pas les moyens aujourd'hui, mais le Seigneur est tout-puissant et il fera quelque chose en notre faveur ». Ça, c'est une autre attitude. Et regardez dans Romains 4, au verset 19, c'est affiché, « regardez l'attitude d'Abraham ». Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. C'est exactement ce qu'on vient de lire. C'est la réalité visible, physique. Ils étaient vieux, ils étaient avancés en âge. Mais Abraham dit, moi je ne vais pas considérer cette réalité-là comme quelque chose d'impossible pour Dieu. Il considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. C'est cette pensée. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi en donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alors, vous voyez qu'Abraham est en train de mettre en pratique, en fait, ce grand principe, c'est que je ne vais pas laisser les événements extérieurs me contaminer l'esprit, je ne vais pas les considérer comme quelque chose qui va m'influencer, mais je vais laisser la conviction que ce Dieu que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est notre attitude en tant que chrétien. Et c'est ce qui va nous permettre d'aller de l'avant. La version Darby dit « Il n'eut pas égard à son propre corps déjà amorti. » Il était déjà amorti. Je ne sais pas si nous sommes déjà amortis, mais en tout cas, lui, c'était le cas. « Abraham ne s'est pas laissé contaminer par les circonstances parce que sa considération était plus élevée, elle était plus glorieuse, elle était centrée sur Dieu. » Moi, je dis, ce n'est pas de l'inconscience, ce n'est pas de la folie, mais c'est de la foi. Et rappelons-nous que Dieu nous a appris, vous ne marchez plus par la vue, mais vous marchez maintenant par la foi. Donc les principes dans la foi ne sont pas les mêmes principes que dans le monde. Bien sûr, il y a les réalités qui nous entourent, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les voir. Mais ça veut dire que ce n'est pas elles qui doivent dominer dans notre esprit, mais c'est la parole de Dieu qui doit dominer notre esprit, c'est les promesses de Dieu qui doivent dominer dans notre esprit. Ce n'est pas de l'inconscience, c'est de la foi. Et peut-être le monde nous dira que nous sommes fous si nous avons la foi, mais en tout cas, la folie est plus sage. La folie pour le monde, c'est plus sage pour Dieu. Et c'est celle-là que nous devons rechercher, c'est la sagesse de Dieu. Alors, la foi qui surpasse toute intelligence. Paul dit même à celui qui peut faire au-delà, au-delà. La foi qui va au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, eh bien, c'est de cela que nous devons nous entretenir l'esprit, de cette foi surnaturelle. Un cinquième élément dans ce texte, c'est le verset 14. Pour vous montrer la réaction maintenant de ces trois hommes, verset 14, lorsque Sarah dise « Mais est-ce que vraiment un tel miracle pourrait se produire ?» Verset 14, « Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel ?» Alors ça, c'est pour remplir dans l'esprit de Sarah cette réalité qu'aucune circonstance, même les plus défavorables, n'empêchera le plan de Dieu de s'accomplir. Considérez toutes les impossibilités auxquelles les croyants ont été confrontés dans l'histoire. Regardez Moïse, lorsqu'il se retrouve devant la mer Rouge, c'est impossible, il n'y a pas de passage, il est devant une situation sans issue. Eh bien, Dieu va créer une issue, il va ouvrir la mer en deux alors qu'il n'y a pas de passage. Dieu fait un miracle. Lorsque David est devant Goliath, même le roi Saül pense qu'il ne va pas s'en sortir, il va mourir, il va se faire terrasser. Mais le miracle prend place, David prend un caillou, il lance la fronde, et au nom de l'Éternel, c'est le géant qui tombe devant David. C'est un miracle. Lorsque Pierre et Jean montent au temple à 15h de l'après-midi, il y a là un paralytique devant la porte Label, ça fait des années qu'il est là, il le regarde, « Je n'ai ni argent ni or », ils disent, « mais ce que j'ai, je te le donne, au nom de Jésus, lève-toi et marche. » Et le miracle s'opère, c'est impossible, mais c'est un miracle. Donc, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Oui, ils avaient la foi, oui, ils croyaient que ce paralytique pouvait se relever. Eh bien, le paralytique s'est relevé devant Pierre et Jean. Alors, lorsque l'annonce de la naissance de Jésus a été faite à Marie, Marie qui était une jeune fille, qui était fiancée avec Joseph, et que l'ange lui dit que tu vas avoir un fils, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et Marie lui dit, mais cela n'est pas possible, comment cela pourrait-il se faire? Je ne connais point d'homme, elle n'était que fiancée. Elle est confrontée, comme nous le sommes, à toutes sortes d'impossibilités. Et l'ange lui dit, c'est l'ange Gabriel, mais ne crains rien parce que rien n'est impossible à Dieu. Y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Et on revient toujours à cette pensée que Dieu peut faire quelque chose qui va surpasser, qui va dépasser nos possibilités. Alors, on termine avec ce passage où Dieu va révéler à Abraham ce qu'il va faire pour Sodome et Gomorrhe. Il y a là un puissant passage d'intercession. Dieu révèle à Abraham qu'il va punir Sodome et Gomorrhe parce que la ville a accompli de nombreux péchés qui sont remontés jusque devant Dieu. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est tout à fait dans la communion. Puisque Abraham est l'ami de Dieu, alors Dieu dit, est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu va révéler à Abraham des secrets. Et ça, c'est le privilège des amis de Dieu. Dieu va partager son fardeau. Le fardeau pour cette ville qui est dans le péché. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et Dieu cherche aujourd'hui encore des hommes et des femmes, des amis de Dieu, à qui il va pouvoir partager son fardeau, peut-être pour le salut des perdus, peut-être pour le témoignage, pour parler de Jésus autour de nous. Et c'est le fardeau de Dieu. Et ce fardeau va venir en nous et nous pousser à aller vers les autres pour leur parler de l'amour de Dieu. Et Abraham va prier, vous avez toute une prière d'intercession, où il va demander grâce, où il va supplier Dieu d'agir pour sauver, parce qu'il sait très bien qu'à Sodome et Gomorre, il y a Lot, son neveu et toute sa famille qui sont là-bas. Et il dit, mais est-ce que tu feras périr le juste avec les injustes? Et il prie pour Lot, parce que Lot, c'est un croyant, mais il est en difficulté, il est dans Sodome et Gomorre, il est quand même contaminé par le péché ambiant. Eh bien, aujourd'hui encore, nous devons nous lever, frères et sœurs, pour prier pour les rétrogrades, pour ceux qui ont lâché la main du Seigneur, pour nos familles, pour qu'ils soient gardés et qu'ils connaissent le Seigneur. Ça, c'est le fardeau de Dieu. Dieu va donner à Abraham ce fardeau et Abraham va prier. Vous voyez, Lot et toute sa famille, eux, ils sont dans l'insouciance. Ils ne se rendent pas compte de l'imminence du jugement. Ils sont menacés en réalité, mais ils ignorent cela et ils vivent dans l'inconscience. Mais les amis de Dieu, eux, ils ont conscience des difficultés, des dangers, et ils vont prier pour qu'il se passe quelque chose. Et si vous lisez toute la prière, Abraham va prier. L'intercession, c'est se mettre entre les hommes et Dieu pour plaider la cause des hommes devant Dieu. Et on va voir qu'effectivement, dans les chapitres suivants, eh bien, Dieu va envoyer des anges pour que Lot et sa famille soient extirpés à la menace, qu'il soit arraché à cette ville qui va être détruite afin qu'il soit gardé. C'est le résultat de l'intercession d'Abraham qui a prié pour les justes, pour que les justes soient épargnés. Enfin, en conclusion, nous devons développer cette communion avec Dieu qui consiste à l'aimer par-dessus toute chose, à passer du temps avec le Seigneur, à mieux le comprendre, mieux le connaître, à chercher à lui plaire par notre attitude, par nos décisions. Retenons ceci, on ne peut pas changer les circonstances difficiles qui nous entourent, mais on peut changer d'attitude. Abraham ne pouvait pas changer la réalité, il était vieux, il était avancé en âge, sa femme ne pouvait plus avoir d'enfants, ça c'est impossible, c'est comme ça, c'est les réalités qui sont là. Ça, on ne peut pas les changer. Ce sont les difficultés qui nous entourent, qui nous environnent. Mais néanmoins, il a choisi de ne pas considérer ces choses comme des difficultés. Il a choisi de considérer la puissance de Dieu supérieure à ces difficultés. Et ça, on peut le faire. Cette attitude, nous pouvons l'avoir. On va prier quelques instants et demander à Dieu sa grâce. Peut-être quelqu'un est dans cette situation, il a besoin de développer cette communion, il a perdu ce premier amour. Peut-être tu as perdu ton premier amour, ces moments où tu avais des révélations, où il y avait cette communion entre Dieu et toi. Eh bien, tout cela, tu peux revenir. Tu peux être fortifié ce matin. Tu peux retrouver le chemin sous les chaînes de Mamré, vigueur, prospérité, la force de Dieu, la vigueur que Dieu va te donner. Tout cela, c'est dans la communion, c'est dans sa présence. Merci.